VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Mozambique, le leader de l'opposition mozambicaine Afonso Dhlakama a annoncé ce mardi une trêve de 2 mois dans le conflit qui oppose la branche armée de son parti, la RENAMO, aux forces gouvernementales. Les hostilités qui ont fait plus de 20 000 déplacés et réfugiés. La RENAMO a décidé de prolonger de 60 jours jusqu'au 4 mars le cessez-le-feu d'une semaine annoncé le 27 décembre, a précisé le leader d'opposition lors d'une conférence de presse organisée par téléphone à Maputo, alors qu'il vit retranché dans les montagnes de Gorongosa, dans le centre du pays. La prolongation de la trêve fait suite à une série de conversations téléphoniques entre Afonso Dhlakama et le président mozambicain Philippe Nyusi, au moment où les pourparlers de paix entre le gouvernement et la RENAMO sont au point mort. Rappelons que la RENAMO, l'ancienne rébellion de la guerre civile mozambicaine entre 1976 et 1992, a repris les armes en 2013 pour contester la mainmise du Frelimo sur le gouvernement. Ce parti est en pouvoir sans interruption depuis l'indépendance du pays en 1975. En RDC, l'accord du 31 décembre négocié in extremis entre la majeure partie de l'opposition et la mouvance présidentielle en danger, selon plusieurs observateurs. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a soulevé hier un sérieux problème d'inclusivité et certaines forces de l'opposition comme le MLC, le Mouvement de Libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, n'ont pas souscrit à l'accord. Henri Désiré Nzouzi, consultant diplomatique, interpelle la majorité présidentielle sur sa responsabilité dans la réussite de l'accord.
Quand on lit attentivement cet accord, il est plutôt favorable à Joseph Kabila puisqu'il garde les 26 provinces, la CENCO n'est pas restructurée de manière profonde comme cela avait été demandé, la présidence n'est pas protocolaire, que du contraire, elle est plutôt effective. Il y a quand même, on peut le dire, sur le papier, des motifs de satisfaction pour Joseph Kabila. Mais là, vraiment, on ne comprend pas. J'ose espérer, pour ma part, qu'il ne s'agit que d'un ballon d'essai destiné à tester la réaction, peut-être, du rassemblement. En tout cas, pour le moment, le rassemblement ne réagit pas de manière, je dirais, officielle. Et c'est plutôt bon signe pour bien montrer qu'elle est consciente de la gravité de la situation et que c'est un moment important pour les Congolais. Il faut simplement espérer que le camp présidentiel se ressaisira.
Henri Désiré Nzouzi à Bruxelles, en Belgique. RDC toujours, un opposant congolais accusé d'avoir insulté le président Joseph Kabila doit comparaître jeudi au parquet de Lubumbashi, 10 jours après la levée de son immunité parlementaire. Les détails avec Michel Joseph.
Gabriel Kyungu Wakumwanza, président de l'UNAFEC et coordinateur du rassemblement de l'opposition dans le sud-est de la RDC, est accusé d'avoir insulté le président Joseph Kabila dans un enregistrement jamais rendu public et dont il conteste l'existence. Proche de l'opposant en exil, Moïse Katumbi, M. Kyungu a été gouverneur et président de l'Assemblée provinciale du Grand Katanga. Son parti est également membre du G7, groupe de 7 partis, passé de la majorité à l'opposition en septembre 2015. Fin mars, le G7 avait demandé à M. Katumbi de se présenter à la présidentielle qui devait se tenir avant la fin de l'année. À la suite d'un accord passé entre le pouvoir et l'opposition le 31 décembre, cette élection est programmé fin 2017 et M. Kabila, dont le mandat s'est achevé le 20 décembre, restera au pouvoir en attendant qu'un successeur soit désigné.
Guinée équatoriale, c'est demain mercredi que le tribunal correctionnel de Paris se prononcera sur la requête des avocats de Théodorine Obiang-Nguema, vice-président et fils du président équato-guinéen, d'un report de son procès pour blanchiment d'abus de biens sociaux et détournement de fonds publics notamment. Au regard de cette affaire, Georges Mbaga, acteur de la société civile au Gabon, dénonce l'opacité et le manque de démocratie en Afrique centrale.
Cette opacité résulte d'abord du fait qu'il y a un déficit démocratique en Afrique centrale. La plupart des chefs d'État sont au pouvoir en moyenne depuis 30 ans. Il n'y a pas d'alternance démocratique dans ce pays, à l'exception du Gabon et de la RDC. Les autres pays, vraiment les sociétés civiles, sont extrêmement faibles. Donc c'est le manque de démocratie qui est à l'origine de ce qu'on appelle le syndrome hollandais, avec d'immenses ressources. Les 11 pays d'Afrique centrale ont des ressources immenses, mais les populations sont immensément aussi appauvries et paradoxalement aussi, les dirigeants sont extrêmement riches. Finalement, l'émergence d'une véritable démocratie est la seule condition pour vraiment avancer dans la lutte contre la corruption.
Georges Mpaga de la société civile gabonaise.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest, en Gambie, les forces de sécurité gambiennes ont fermé 3 stations de radio privées installées près du Banjul, la capitale. Le président sortant Yahya Jammeh continue de refuser de reconnaître sa défaite face à l'opposant Adama Barrow à l'élection présidentielle du 1er décembre et il réclame avec insistance la tenue de nouveaux scrutins. Dans son discours du Nouvel An, Yahya Jammeh a accusé la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, de lui avoir fait une déclaration de guerre en disant qu'elle usera de tous les moyens pour le faire partir du pouvoir. Que signifie cette tension pour le Sénégal, pays dans lequel est enclavée la Gambie et qui joue un rôle clé de la recherche d'une solution à la crise gambienne? La correspondante de la Voix de l'Amérique sur place, Rissi Chariwok, a posé la question à Mathias Ungpe, administrateur du programme gouvernance politique à l'ONG Osiwa à Dakar.
Yahya Jammeh militairement n'a pas les moyens de s'attaquer au Sénégal et en plus le Sénégal dans la recherche de solutions à la crise en Gambie n'est pas seul. Je crois que la plupart des pays de la CEDEAO seront aux côtés du Sénégal, y compris la communauté internationale. Et donc de ce point de vue, je ne crois pas que ce soit une option pour la Gambie de s'attaquer au Sénégal militairement. Alors, en ce qui concerne maintenant l'implication de tout ceci pour la Casamance, pour le Sénégal, de mon point de vue, c'est mieux pour le Sénégal s'il n'y a pas d'instabilité en Gambie. Parce que l'instabilité en Gambie pourrait offrir une sorte de marge de manœuvre plus élargie aux rebelles de la Casamance, un espace d'aller et venir qui peut les aider à mieux s'organiser et continuer des actions de rébellion contre le Sénégal. Mais dans le même temps, je crois qu'il faut tenir compte du fait que les rebelles casamançais ne sont pas là simplement à la disposition de Jammeh et qu'il peut faire d'eux ce qu'il veut.
Mathias Ungpe, administrateur du programme gouvernance politique à l'ONG Osiwa à Dakar, au Sénégal. Direction maintenant la Guinée pour un coup de projecteur sur les perspectives sur place en 2017 de Conakry, notre correspondant Zakaria Camara.
L'une des définitions de la Guinée de 2017 pourrait se trouver dans le discours de Nouvel An du président Alpha Condé. État de droit, démocratie, paix, meilleures conditions de vie des Guinéens. Voilà quelques objectifs définis mais qui demandent des actions.
Nos efforts s'attellent aussi à la reconnaissance de l'économie rurale et d'une manière générale au soutien au monde agricole. Cela permettra de consolider notre autosuffisance alimentaire à travers l'appui aux cultures de rente et la réalisation d'infrastructures d'aménagement et de maîtrise de l'eau pour l'agriculture. En matière d'énergie, le lancement de la construction du barrage de Swapiti d'une capacité de plus de 450 MW et la construction d'autres barrages, comme ceux de Koukoutamba et des barrages régionaux prévus à Kobidouaf, Farankounedou, vont permettre de desservir la Haute-Guinée et la Guinée forestière.
Le président Condé peut aussi compter sur le plan de relance, résilience post-Ebola soutenu par les partenaires internationaux.
Il s'articule autour de plusieurs axes, la stabilisation de l'économie nationale, le renforcement du système de santé du pays, l'autonomisation des femmes et des jeunes, l'énergie, l'agriculture, la condition d'habitat sociaux.
2017, c'est aussi de la culture. Conakry sera la capitale mondiale du livre. Mais c'est une année électorale avec l'organisation prochaine des élections locales. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Le Nigeria demande des explications à l'Afrique du Sud suite à la mort jeudi d'un de ses ressortissants interpellés par la police sud-africaine. Des photos et vidéos enregistrées par plusieurs témoins montrent en effet que le Nigérian Victor Tochukwu Nnadi a été étranglé en pleine journée par des policiers du Cap alors qu'il était à terre et menotté. Ce comportement barbare est non seulement inacceptable, mais nous appelons également le Nigeria et l'Afrique du Sud à porter une attention diplomatique à ce dossier, a déclaré Abike Dabiri-Eriwa, conseiller spécial à la présidence nigériane pour les questions de politique étrangère et la diaspora. La police du Cap, de son côté, affirme que Nnadi avait résisté à son arrestation pour trafic présumé de drogue et qu'il serait mort après avoir tenté d'avaler une dose d'héroïne qu'il s'apprêtait à vendre. Une version démentie par le porte-parole de l'Union nigériane en Afrique du Sud. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.